Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le rapport d'Amnesty International qui qualifie d'apartheid la politique de l'État d'Israël envers les Palestiniens n'est pas uniquement une dénonciation, c'est un appel au changement. C'est ce qu'indique au micro de Radio Orient la présidente d'Amnesty International en France. Cécile Coudriou sera l'une de nos invitées. La Fondation Abbé Pierre a dévoilé son 27e rapport annuel sur l'état du mal-logement en France. 4 100 000 personnes sont mal logées dans le pays. La France compte aujourd'hui 300 000 personnes sans domicile. Ce chiffre a plus que doublé depuis 2012. Jehoshua Saïd avait essayé de montrer comment il était important de placer l'histoire humaine et l'histoire de l'univers au cœur même de la révélation islamique. Il a témoigné de l'importance de la non-violence. L'hommage du prêtre et historien Vincent Feroldi après la mort de l'intellectuel syrien. Nous écouterons le père Vincent Feroldi. La Coupe d'Afrique des Nations, première demi-finale ce soir, Burkina Faso, Sénégal, coup d'envoi à 20h. L'autre demi-finale, ce sera demain à 20h, avec un face-à-face Égypte-Cameroun. Nous espérons que ce rapport sera porteur de solutions. Notre démarche est un appel au changement. Des mots au micro de Radio Orient de la présidente d'Amnesty International France après la publication du rapport de l'ONG qui qualifie d'apartheid la politique de l'État d'Israël envers les Palestiniens. Le rapport dénonce une ségrégation territoriale, des restrictions de déplacement, des saisies massives de biens fonciers et immobiliers, des expulsions forcées, des détentions arbitraires, des tortures. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères indique qu'il examinera attentivement ce document. La France, selon le Quai d'Orsay, continuera d'œuvrer en faveur d'une solution à deux États. Entretien avec la présidente d'Amnesty International France, Cécile Coudriou.
Ce que nous avons conclu après 4 ans de recherche et une analyse très minutieuse des différentes lois, des pratiques, des politiques menées par Israël, eh bien, ça a contribué à progressivement conforter en fait ce système de discrimination à un tel niveau qu'il en devient un système d'apartheid. Et la nouveauté de notre rapport, c'est que c'est pas seulement, comme l'avait dit par exemple Human Rights Watch, au niveau des territoires palestiniens occupés. Pour nous, il est important de changer de paradigme et de voir en fait ce système comme un système global et d'avoir une vision un peu plus holistique en quelque sorte, car finalement ce système de domination est à l'œuvre aussi bien à l'encontre des réfugiés palestiniens et leur impossibilité de retour, qu'à l'encontre de certains Palestiniens qui sont en Israël et bien sûr toujours par rapport au territoire palestinien occupé.
Et vous dénoncez une discrimination systémique, vous l'avez rappelé, pas uniquement dans les territoires palestiniens occupés.
En fait, ce que nous pensons, c'est que cette politique qui consiste finalement à favoriser une hégémonie démographique israélienne, enfin juive, finalement contribue à cette constante ségrégation territoriale, à un contrôle permanent, non seulement des déplacements, mais finalement de tous les détails de la vie quotidienne des Palestiniens, ce qui contribue véritablement à les faire vivre comme des citoyens de seconde zone, comme des personnes qui sont finalement privées de leur dignité humaine. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est vraiment temps de démanteler ce système, de sortir du déni et de la posture qui est celle d'Israël, de toujours dire qu'on est antisémite, qu'on est bien sûr anti-État Israël lui-même, dès lors qu'on critique une politique qui pourtant est véritablement contraire au droit international des droits humains. Or, c'est la mission de l'Amnesty International que de faire respecter ce droit. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est pas seulement une dénonciation, c'est véritablement un appel au changement, avec des recommandations très précises, notamment justement sur le plan juridique, de faire appel à la Cour pénale internationale, qu'elle soit saisie éventuellement par le Conseil de sécurité de l'ONU, pour pouvoir inclure dans l'enquête qu'elle a commencée en mars 2021 sur la situation en Palestine, pour inclure ce crime d'apartheid et pour utiliser notamment tous les éléments que nous avons pu obtenir grâce à l'enquête de terrain, mais aussi grâce à une analyse juridique, pour pouvoir documenter précisément en quoi il s'agit bel et bien d'un apartheid qui doit donc être démantelé de toute urgence. Par ailleurs, nous demandons aussi un embargo sur les armes, car il y a également des crimes violents qui sont commis, notamment lors des manifestations, une répression tout à fait disproportionnée. Et donc, il est important pour nous qu'il y ait également une fin de l'impunité, finalement, lorsque l'État d'Israël se voit soutenu à travers ses ventes d'armes. Et puis, bien sûr, sur la scène internationale, il est absolument essentiel que des États qui ont des liens très forts avec Israël fassent pression pour leur faire reconnaître ce crime et fassent en sorte que ce système soit progressivement démantelé, en commençant par ces systèmes d'expulsion, de démolition systématique des habitations des Palestiniens pour les empêcher de s'installer et favoriser au contraire la colonisation israélienne, même lorsqu'elle est illégale. Ce système-là, qui est encouragé par l'autorité, doit absolument cesser.
Comment avez-vous accueilli la réaction de la France, qui indique que la position de Paris sur le conflit israélo-palestinien reste constante, fondée sur le droit international, et que Paris continuera d'œuvrer en faveur d'une politique à deux États?
En tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est que les États tiers prennent toutes leurs responsabilités et fassent pression sur Israël, y compris en toute amitié. Et c'est important pour nous qu'il y ait vraiment une sorte de capacité à fissurer ce mur de déni qui est toujours celui d'Israël depuis des décennies, et de montrer que ça ne peut plus durer ainsi, et que sur la scène internationale, des voix vont s'élever sans être intimidées par cette accusation permanente d'antisémitisme. Donc la France est quand même un pays qui a souvent œuvré pour faire reconnaître les violations que les Palestiniens subissent, et donc nous allons leur demander que cette impunité puisse cesser, et que ce soit à travers l'Assemblée générale des Nations Unies ou à travers le Conseil de sécurité et finalement à travers la Cour pénale internationale, nous pensons que tous ces instruments doivent servir à faire justement reconnaître ce crime d'apartheid et donc commencer à le démanteler.
Vous évoquez ces accusations d'antisémitisme. Israël, qui a récemment classé six ONG comme étant terroristes, ces intimidations ont-elles un impact sur l'aide qui est apportée sur le terrain aux Palestiniens?
Alors, en tout cas, pour nous, il est très important effectivement de faire à la fois une recherche, ce qu'on appelle de desk research, donc une recherche documentaire, mais aussi une recherche de terrain, dont nous avons rencontré le plus de parties prenantes possible, et malheureusement, nous avions demandé aux autorités israéliennes de nous rencontrer avant la sortie du rapport, ce qui a été refusé. Et il est très clair que les critiques qui ont été apportées par les autorités israéliennes sont absolument infondées et même ridicules, puisqu'ils n'ont même pas encore lu le rapport, qu'ils sont déjà en train d'essayer de critiquer celui qui porte des messages. Donc il serait vraiment temps qu'ils regardent dans le détail nos analyses, qu'ils voient à quel point elles sont fondées juridiquement. Et si malheureusement l'État israélien reste sourd, eh bien nous allons de toute façon poursuivre un travail de plaidoyer au niveau national, avec les différentes sections d'Amnesty dans le monde, mais aussi au niveau régional, comme par exemple au niveau de l'UE, et bien sûr, je le répète, dans le cadre des Nations Unies, car c'est là que nous avons véritablement des effets de levier possibles pour lutter contre l'apartheid.
La France préside aujourd'hui le Conseil de l'Union européenne. Attendez-vous une action de la part de la France concernant la situation, notamment dans les territoires palestiniens? L'espérez-vous en tous les cas?
Non seulement nous l'espérons, mais nous allons faire en sorte, à travers notre travail de plaidoyer, effectivement, de demander à la France de jouer pleinement son rôle avec la cohérence et l'exemplarité que l'on peut exiger d'elle. Et donc, il nous paraît important de profiter de cette présidence du Conseil de l'Union européenne pour pouvoir porter très haut et fort cette voix en faveur du respect des droits humains, cette voix contre l'impunité. Et encore une fois, ça n'est pas être contre Israël, que ce soit la France ou une ONG comme Amnesty International, ça n'est ni contre les Juifs, ni contre Israël. C'est véritablement contre une politique que nous considérons comme extrêmement délétère, comme extrêmement inacceptable dans la mesure où c'est le quotidien qui devient un enfer pour les Palestiniens. Et donc ce système doit vraiment être démantelé le plus tôt possible.
Et mettre en lumière cette politique, c'est aussi un service que vous pouvez rendre notamment au peuple israélien.
Nous pensons, d'ailleurs ce sont des associations israéliennes, par exemple celle qui s'appelle Bethléem, avec lesquelles nous avons aussi des collaborations, nous avons pu échanger, mais simplement ils n'avaient pas les moyens de faire une analyse juridique aussi fine, aussi poussée, de faire un rapport de plus de 200 pages. Ça, c'est véritablement la première fois que ça se produit, et c'est pourquoi nous espérons véritablement que ça sera quelque chose qui va être porteur de solutions. Tout rapport pour nous n'a de sens que parce qu'il est basé sur des faits, documenter des faits sur le terrain et analyser des lois, mais ensuite, bien sûr, porter des recommandations. C'est tout l'intérêt de notre démarche, c'est vraiment un appel au changement.
La présidente d'Amnesty International France, Cécile Coudriou. Des universités publiques en Afghanistan ont rouvert ce mercredi pour la première fois depuis la prise de pouvoir en août dernier par les talibans. Seules quelques étudiantes ont pu assister aux cours qui seront non mixtes selon les autorités. Les les universités privées avaient été autorisées à rouvrir depuis septembre pour femmes et hommes, mais avec des classes non mixtes. L'aviation turque a mené des bombardements aériens hier en Irak et en Syrie, des raids contre des positions des rebelles, membres ou liés au Parti des travailleurs du Kurdistan. Les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien font état de pertes humaines. De nombreux hommages après la mort du penseur syrien Javdat Saïd. Il est mort à Istanbul où il vivait ces dernières années après avoir fui le régime de Bachar el-Assad. Il était âgé de 90 ans. Vous avez pu écouter hier l'hommage du président de la Fondation de l'Islam de France, Khaled Bencher. Entretien aujourd'hui avec le prêtre du diocèse de Lyon et historien Vincent Feroldi, ex-directeur des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France.
J'ai appris le décès de Javad Saïd et c'est vrai que voilà un penseur, je dirais un peu original, puisque il a tout au long de sa vie essayé, dans une fidélité d'une part à la foi musulmane, à la révélation coranique, témoigner d'un esprit de recherche et entre autres, j'ai envie de dire, d'incarnation de cette révélation dans la réalité de, je dirais, humaine. Je suis moi-même historien de formation et Javad Saïd avait essayé justement de montrer comment il était important de placer aussi l'histoire humaine et l'histoire finalement de l'univers au cœur même de la révélation coranique, islamique, et à partir de là, de voir comment la naissance de l'être humain, qui est en même temps, dans la foi musulmane, lieutenant de Dieu sur terre, devait être comprise. Et au cœur même de sa réflexion, il a témoigné, je dirais, quelque chose qui est très beau, dont on a ô combien besoin aujourd'hui, qui est de l'importance de la non-violence. Et c'est avec émotion que j'ai réalisé qu'il est décédé le jour même où, en 1948, Gandhi était décédé. Et il y a comme une espèce de coïncidence significative que nous sommes là devant deux penseurs qui, chacun dans sa tradition, a été à la recherche finalement du meilleur, je dirais, pour l'homme dans sa quête de Dieu et dans la quête de sa place même au cœur du projet de Dieu.
Sa pensée mériterait d'être davantage mise en lumière aujourd'hui.
C'est vrai que sa pensée, elle a un petit côté iconoclaste, c'est-à-dire qu'elle sort un petit peu, je dirais, des visions traditionnelles et je dirais, aussi bien, on pourrait dire, dans la théologie, je dirais, chrétienne que dans la théologie musulmane, ou dans la théologie juive, qui est des chercheurs, ce que j'appelle vraiment des honnêtes hommes et femmes qui essayent, à la lumière de ce qu'est la réalité de la vie à une époque, donc la réalité contemporaine pour nous, de mieux saisir comment Dieu, à travers les siècles, s'est exprimé. Et c'est pour ça que sa pensée mérite vraiment d'être connue et d'être travaillée pour nous aider les uns et les autres, dans la diversité de nos traditions, à percevoir qu'est-ce que Allah, qu'est-ce que Yahvé, qu'est-ce que Dieu de Jésus-Christ nous demande aujourd'hui. Et cet homme qui, malheureusement, a achevé sa vie en exil, loin de son pays, a voulu, voilà, dans une fidélité à ses idées aussi, dans un renoncement à la violence, a préféré, voilà, prendre du recul par rapport au pays qu'il aimait, qui était le sien, pour pouvoir continuer dans une fidélité à cette recherche du mystère de Dieu et du mystère de l'homme.
Vous œuvrez pour le dialogue interreligieux. Cet homme, sa pensée et ce qui pouvait en résulter, cela aussi faisait émerger ce dialogue.
Oui, on va avoir la journée internationale de la fraternité humaine qui a été décidée à la suite de la rencontre du pape François et du grand imam Del Azhar à Abu Dhabi. Et je dirais, c'est bien dans ce sillon, je dirais, d'une fraternité humaine partagée, où les croyants dans la diversité finalement de leur tradition recherchent ensemble, dans un respect mutuel, à mieux comprendre, je dirais, quels sont les défis d'aujourd'hui et à mieux comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande, là où nous sommes, de répondre à ces défis. Et c'est pour ça que nous avons tout intérêt, où que nous soyons et quelle que soit notre tradition, à nous enrichir du regard de l'autre, de se mettre à son écoute, surtout qu'entre l'autre et, je dirais, un autre homme au sens philosophique du terme, qui cherche vraiment à trouver au plus profond intime de lui-même et aussi en regardant ce que sont les textes sacrés, ce qu'il faut pour témoigner aujourd'hui de sa foi et surtout d'une même espérance.
L'historien et prêtre du diocèse de Lyon, Vincent Feroldi. La Fondation Abbé Pierre a dévoilé son 27e rapport annuel sur l'état du mal logement en France. 4 100 000 personnes sont mal logées dans le pays. La France compte 300 000 personnes sans domicile. Ce chiffre a plus que doublé depuis 2012 et triplé depuis 2001, selon la Fondation. Elle pointe aussi du doigt la progression incontrôlée du prix du logement qui pénalise les personnes aux revenus les plus modestes, alors que le nombre de demandeurs de HLM en attente ne cesse de progresser pour atteindre 2,2 millions de ménages. C'était lundi dernier, la carcasse d'un sanglier a été découverte à Toulouse, près d'une enseigne de pompes funèbres musulmanes. Le gérant dénonce un acte islamophobe. Le comité toulousain de SOS Racisme dénonce un acte de vandalisme qui dénote la montée en puissance d'un sentiment notamment anti-musulman. La Coupe d'Afrique des Nations, première demi-finale ce soir, Burkina Faso-Sénégal, coup d'envoi à 20h. L'autre demi-finale, ce sera demain à 20h avec un face-à-face Égypte-Cameroun. Vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera le député de l'Essonne, Cédric Villani, membre de l'équipe de campagne du candidat écologiste Yannick Jadot. Émission présentée par Loïc Barrière. Excellent début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.